Bonjour à toutes et à tous, vous allez bien? L'année 2022 s'annonce très très fort pour les services ressources humaines des employeurs publics locaux. Les sujets appréhendés pour la nouvelle année sont en effet démultipliés, s'annoncent plus que compliqués. On est ensemble par conséquent ce jour pour ce 50e poste audio de l'association nationale NoRH.com que j'ai le plaisir de présider pour faire ensemble un petit tour d'horizon sur les sujets d'actualité RH 2022 pour la fonction publique territoriale. La liste des points qu'on va évoquer ensemble n'est pas exhaustive, mais cela vous donnera toutefois une bonne idée de ce qui vous attend. Donc, tout d'abord, un petit zoom sur les décrets publiés en fin d'année 2021, respectivement les 24 et 30 décembre 2021. Les premiers textes concernent la catégorie C. La revalorisation des carrières et des rémunérations des agents de catégorie C, les trois versants de la fonction publique, est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2022. Après la publication de deux décrets le 28 décembre 2021. Donc, quels sont les principaux points qu'il faut retenir de cette nouvelle réforme de la catégorie C au 1er janvier 2022? Alors, elle améliore les débuts de carrière des agents de catégorie C. Les durées d'échelon en C1 et C2 sont diminuées sur les 5 premiers échelons qui sont désormais d'un an. Ainsi, la durée du grade est ramenée de 25 à 19 ans en C1 et de 25 à 20 ans en C2. Par ailleurs, une bonification d'ancienneté de 12 mois est attribuée à l'ensemble des fonctionnaires de la catégorie C. Précision, ces mesures ne s'appliquent pas aux auxiliaires de puériculture et aux aides-soignants, puisque ces agents relevant auparavant de la catégorie C ont été reclassés en catégorie B au 1er janvier 2022. La réforme prévoit par ailleurs un relèvement des indices minimums en C1 et C2 pour les 7 premiers échelons et en C3 pour les 2 premiers échelons. La fin d'année 2021, c'est également de l'actualité pour la filière médico-sociale. 7 décrets sont parus au journal officiel du 30 décembre 2021. Ils ont pour vocation de mettre en œuvre la transposition des accords du Ségur de la santé à certains cadres d'emploi de la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale. Infirmiers en soins généraux, puéricultrices, cadres territoriaux de santé, masseurs-kinésithérapeutes, aides-soignants, auxiliaires de puériculture territoriaux. Ces mesures correspondent au déploiement partiel des accords de Ségur à la fonction publique territoriale concernant certains agents des EHPAD territoriaux. Vous en trouverez le détail dans des posts récents publiés sur le blog NoRH.com. À noter aussi, le 22 décembre 2021, la publication du décret numéro 2021-1749 qui concerne le minimum de traitement dans la fonction publique. Le SMIC a été augmenté de 0,9% au 1er janvier 2022 afin de tenir compte de l'inflation. Pour qu'aucun agent n'ait un traitement inférieur à ce plancher, le minimum de traitement dans la fonction publique est aligné sur le SMIC. Le décret que j'ai précité porte ainsi le minimum de traitement de 340 à 343 points d'indice majoré, soit 1607,31 euros bruts mensuels à compter du 1er janvier 2022. Un agent de catégorie C, en début de grille indiciaire, touche ainsi un peu plus de 14 euros bruts supplémentaires par mois à compter du 1er janvier 2022. Cette hausse intervient après une première revalorisation qui avait eu lieu au 1er octobre 2021. À signaler aussi la publication du décret numéro 2021-1920 qui concerne la police municipale, publié le 30 décembre 2021. Le gouvernement a attendu le dernier jour en fait, de l'année 2021 pour publier un très controversé décret permettant l'application du principe de l'engagement de servir des policiers municipaux prévu par la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés. Avec cette mesure, les employeurs territoriaux ont la possibilité d'imposer aux policiers municipaux en période de stage l'obligation de demeurer dans la collectivité pendant 3 ans à partir de leur titularisation. En cas de rupture de l'engagement pour des motifs autres que leur état de santé ou des nécessités d'ordre familial, les agents sont obligés de rembourser les frais liés à leur formation. Bien entendu, le début 2022, c'est également l'adaptation des protocoles sanitaires pour faire face à la 5e vague concernant la crise Covid-19. L'année 2022, elle a débuté avec un appel à renforcer de nouveau le télétravail dans les administrations. Le Premier ministre avait d'ailleurs annoncé le 27 décembre 2021 à la télévision qu'à partir du 3 janvier 2022 et pour 3 semaines, le recours au télétravail 3-4 jours par semaine sera rendu obligatoire dans toutes les entreprises et pour tous les salariés pour lesquels cela est possible. Suite à cette intervention, la ministre de la fonction publique a appelé les employeurs et les agents publics qui le peuvent à passer à 3 jours de télétravail par semaine en indiquant que, je cite la ministre, si la majorité le font à la rentrée, nous diviserons par 2 le nombre de personnes qui se rassemblent dans une administration. C'est déterminant face aux variants Omicron. Ce que dit la ministre. Par la suite, le 29 décembre 2021, il y a une circulaire relative au télétravail dans la fonction publique d'État et au respect des règles sanitaires renforcées dans le cadre du travail sur site qui a été publiée. 3 jours de télétravail sont imposés à compter du 3 janvier 2022 et pour 3 semaines pour les fonctions publiques qui le permettent. La Direction générale des collectivités locales, DGCL, a également mis à jour le 29 décembre 2021 sa foire aux questions relatives au télétravail dans la fonction publique territoriale. Et une note d'information relative au télétravail dans la fonction publique territoriale et au respect des mesures renforcées pour le travail sur site a été publiée le même jour. Elles sont disponibles en téléchargement sur le blog et il y est indiqué que les employeurs publics territoriaux sont vivement incités à imposer 3 jours de télétravail pour une durée de 3 semaines à compter du 3 janvier 2022 sous réserve des nécessités de service. La ministre de la fonction publique a aussi affirmé le 4 janvier 2022 sa volonté de faire appliquer la contrainte des 3 jours de télétravail pour les employeurs territoriaux par l'intermédiaire des contrôles de légalité. Les préfets pourront faire remonter une difficulté d'application du télétravail chez un employeur public local, ce qui générera un dialogue politique plutôt que des sanctions directes. Il convient cependant de remarquer que le principe de libre administration des collectivités territoriales, principe consacré par l'article 72 de la Constitution, ne peut pas rendre obligatoire le recours au télétravail 3-4 jours par semaine dans la fonction publique territoriale. Concernant toujours l'adaptation des consignes sanitaires pour faire face à la 5e vague, des nouvelles règles d'isolement ont été publiées. Elles sont applicables à compter du 3 janvier 2022. Et elles concernent les agents infectés, les cas contacts, les professeurs, les élèves et le personnel des écoles. Elles sont disponibles toujours sur le site noirh.com sous la forme d'infographie pour en faciliter la lecture. À noter que sur la question des agents vulnérables et la protection qui leur est due depuis le 3 janvier dernier, le détail est aussi sur le blog. À noter qu'à ce sujet, les agents partageant leur domicile avec une personne vulnérable doivent poursuivre leur activité professionnelle et ne peuvent être placés en autorisation spéciale d'absence, contrairement à ce qui avait eu lieu au tout début de la crise sanitaire, je vous rappelle. Le gouvernement a également aussi indiqué que la suspension du jour de carence demeure applicable pour les agents testés positifs au Covid-19 jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. C'est bon, vous suivez toujours? Donc 2022, c'est aussi la question du temps de travail et l'obligation de respecter la durée annuelle légale de 1607 heures. C'est la fin des fameux régimes dérogatoire pour certains employeurs publics locaux suite à la publication de la loi portant transformation de la fonction publique. Tout le monde, pour résumer, doit se mettre aux normes. Donc au sujet des 1607 heures, ce qu'il est intéressant à retenir et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'on peut faire appel à la notion de pénibilité qui permettra de préserver un temps de travail annuel réduit pour les personnels soumis à de fortes contraintes temporelles ou dont les conditions de travail sont éprouvantes. Ce sujet est cependant ultra sensible et complexe, car la pénibilité, en fait, elle est difficile à objectiver. La démarche est également périlleuse pour définir des critères communs à l'ensemble du personnel d'une collectivité. Toutefois, les collectivités ont tenu compte de la pénibilité certaine liée aux sujétions particulières, comme le travail de nuit et le week-end ou le service à la personne. D'autres collectivités ont aussi en fait privilégié la pénibilité liée aux risques professionnels, à des domiciles, petite enfance. Ainsi, après avis du comité technique, la collectivité peut réduire la durée annuelle du travail, mise en 7 heures, pour tenir compte de suggestions, le travail de nuit, le dimanche, les jours fériés, en horaire décalé, le travail en équipe, la modulation importante du cycle de travail et les travaux pénibles ou dangereux. Autre dossier RH, les référents laïcité dans la fonction publique. Le référent laïcité que la loi confortant le respect des principes de la République du 24 août 2021 avait instauré dans les services publics vient de prendre corps en fait avec l'apparition du décret numéro 2021-1802 du 23 décembre 2021. Décret qui indique que le référent laïcité est choisi parmi les magistrats, les agents publics titulaires ou contractuels en CDI et les militaires en activité ou retraités, que son rôle est de conseiller les agents et les chefs de service sur la mise en œuvre de la laïcité et qu'il participe à la sensibilisation des agents à ce principe et organise la journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année. En outre, il peut être sollicité en cas de difficulté dans l'application du principe de laïcité entre un agent et des usagers du service public. Un même référent laïcité peut exercer ses fonctions pour le compte de plusieurs structures, par exemple au sein d'un centre de gestion, dans la fonction publique territoriale. Il doit, en outre, bénéficier d'une formation adaptée à ses missions et à son profil. 2022, c'est aussi la réforme des instances médicales, puisqu'il va y avoir une fusion des comités médicaux et des commissions de réforme dans un conseil médical, réforme qui entrera en vigueur le 1er février 2022, le décret restant à paraître en 2022. La réforme de la protection sociale complémentaire et la participation obligatoire des employeurs devraient également aboutir à la publication d'un décret début 2022 et surtout oblige dès à présent à la présentation d'un rapport sur la protection sociale complémentaire en février 2022 devant les assemblées délibérantes. Enfin, 2022, c'est parti pour les élections professionnelles qui auront lieu le 8 décembre prochain. Le vote électronique sera quant à lui, si c'est le choix effectué par les employeurs en concertation avec les partenaires sociaux, ouvert durant la semaine qui précède le scrutin à compter du 1er décembre 2022. Les assemblées délibérantes auront à délibérer sur le nombre de représentants tout en veillant au respect de la parité et devront choisir les modalités de vote à ce scrutin, à l'urne ou électronique, avant le mois de juin 2022. Le premier semestre 2022 sera donc marqué par la nécessité d'établir une cartographie des instances, le comité social territorial remplaçant le comité technique et le CHSCT en 2023, et les protocoles relatifs à l'organisation de cette élection professionnelle 2022 pourront faire l'objet d'une négociation sociale à l'échelle locale, même si cette dernière demeure facultative. C'était un petit peu long, mais merci pour votre écoute. On peut facilement en conclure que les services RH en 2022 vont être lourdement mis à contribution, sans toujours toutefois en avoir les moyens. C'est pourquoi, si vous le souhaitez, je vous invite à ne pas hésiter à faire appel à l'assistance juridique statutaire et de gestion administrative rhfpt.com 24h sur 24, proposée en service complémentaire du blog nosrh.com. Vous trouverez tous les détails d'adhésion sur le blog. À très bientôt, c'était Pascal Nau, président de l'association nosrh.com. N'hésitez pas à faire appel à moi pour toute demande en utilisant le formulaire de contact en ligne sur le site. À très vite.